Révolution médicale. Une émission de René Friedman. Qui, dans le cadre de la semaine Einstein, reçoit le professeur
Yves Agide,
neurologue de la Pitié-Salpêtrière, mais surtout connu parce qu'il est membre de l'Académie des sciences. Il a été lauréat de beaucoup de travaux sur le mouvement, sur la neurogénétique, sur la neuropsychologie. Il était un des membres fondateurs de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à la Pitié-Salpêtrière. Et il a écrit récemment « L'homme subconscient, le cerveau et ses erreurs » chez Robert Laffont en 2013. Nous allons parler de Einstein. Et j'ai appelé un peu cette émission de Einstein à Frankenstein. Pourquoi ? Parce que, à part la plaisanterie du jeu de mots, c'est simplement parce que Frankenstein, finalement, c'est aussi l'approche chirurgicale du cerveau, la transplantation du cerveau. Et on va voir qu'aujourd'hui, nous sommes en plein développement des méthodes mini-invasives qui permettent de guérir un certain nombre de maladies. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque Albert Einstein décède à l'âge de 76 ans? Il est aux États-Unis à ce moment-là, il est bien sûr très connu, et il demande d'ailleurs à ce que son corps soit brûlé. Il ne veut pas être l'objet d'un culte, je dirais, où il y aurait un lieu où on vienne le vénérer. Et un jeune anatomopathologiste, Thomas Harvey, âgé de 42 ans, va faire l'autopsie, découvre une rupture de l'anévrisme de l'aorte, mais il va surtout, dans ce qui nous intéresse, prélever l'encéphale d'Einstein. On ne sait pas trop s'il y a eu un accord de la famille, vraisemblablement pas. Il va donc garder ce cerveau, le couper en tranches, essayer de l'étudier. Mais ce qui est assez extraordinaire, ce cerveau mythique, comme dirait Roland Barthes en 1957, montre que ce cerveau va être stocké. Et c'est dans une caisse de cidre, une boîte de cidre Costa. Et c'est un jeune journaliste, Stephen Levy, qui va remonter dans les années 78-82 et qui va découvrir cette réalité que le cerveau d'Einstein reste toujours là mais n'a pas été étudié. Le premier article va être en 1985, donc jusque-là, il n'y a pas de publication de 55 à 85. Et il se trouve que, Agide, vous avez lu le rapport d'autopsie?
J'ai lu un des rapports par une neuropathologiste de la côte ouest des États-Unis qui m'a gentiment envoyé ça, qu'on a d'ailleurs publié en partie dans le bouquin dont vous venez de parler, et qui montrait que le cerveau de Einstein était normal, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé de sclérose en plaques, d'infarctus, de tumeur ou d'autre chose. Mais lorsque, dans la lettre qu'elle m'a écrite personnellement, je lui avais posé la question de savoir s'il y avait quelques cellules un peu bizarres, etc. Elle m'a dit non, c'était strictement normal. La seule chose, c'est qu'il y avait plus de cellules gliales que de neurones. Alors, il faut s'expliquer.
Voilà, qu'est-ce que c'est que les cellules gliales ?
Dans le cerveau, rappelle cette masse de tissu gélatineux qu'on a entre les deux oreilles, un peu moins de 3 livres, il y a un grand nombre de cellules, énormes, on dit à peu près 100 milliards de neurones, mais il y a deux fois plus des autres cellules, qu'on appelle des cellules gliales. Gliales, ça vient de glu, comme la colle, parce que c'était considéré comme un espèce de tissu, de ciment, en quelque sorte, qui permettait aux neurones. Les neurones ont des prolongements, donc...
Les neurones étaient nobles, les éléments nobles, et le tissu glial était de soutien, on disait.
Exactement. Hein. On considère d'ailleurs toujours que les neurones sont le tissu noble du cerveau, celui qui permet de penser. J'en suis pas sûr, peut-être qu'on en reparlera. En tout cas, ces cellules gliales comportent des quantités de différents types de cellules, dont les astrocytes. Astrocytes, ça veut dire en forme d'étoile, cellules en forme d'étoile. Et ces astrocytes sont extrêmement nombreux et jouent un rôle très important, à mon avis, dans le processus d'élaboration de la pensée. Et donc le fait que le cerveau d'Einstein ait plus de cellules gliales que de neurones, on pourrait suggérer que, mais il s'agit que d'un cas, on peut pas
retirer la moindre. Lénine aussi, c'est pareil. On n'a pas trouvé.
Lénine, alors il se trouve, ça c'est vraiment une communication personnelle. J'étais invité à Moscou il y a 2 ans, et pour me remercier à l'Académie des sciences, après, on m'a fait visiter l'institut en question, et dans une cave, au bout d'un long couloir. On a ouvert une porte. J'étais très privilégié, paraît-il. On a ouvert dans cette espèce d'énorme réduit des armoires, et des armoires qui étaient pleines de lames d'histologie. Mais des milliers ou des dizaines de milliers, je ne sais pas quoi. On avait coupé le cerveau de Lénine en petites tranches et on avait regardé au microscope toutes les tranches. Et j'ai demandé qu'est-ce que vous avez trouvé, évidemment. Alors, tout le monde s'est regardé devant moi, un peu suspicieux, puis on m'a dit, non, le cerveau de Lénine était absolument normal. Je lui ai dit, ah bon, très bien. Il dit, non, il y a juste un petit problème, il y avait plus de cellules gliales. Donc, à propos de deux cas, on pourrait se penser que Lénine était quand même certainement un type très, très intelligent. Einstein, personne ne nie que c'était un génie, aucun problème. Mais attention, faut pas dire une conclusion hâtive. Hein. Mais peut-être que les cellules gliales joueraient un rôle important dans la genèse de la pensée, ou en tout cas d'une pensée meilleure. Voilà, mais ça reste à prouver. Mais c'est un peu le sujet du bouquin, d'ailleurs.
Oui, on va voir le rôle que peuvent avoir ces cellules, justement, sur la pensée, sur le subconscient, l'inconscient et le conscient, d'ailleurs. Mais ce qui veut dire que l'idée que le poids du cerveau est en rapport avec l'intelligence...
Non, ça, c'est une erreur. Par exemple, le cerveau de la vache, qui est connu pour son intelligence, est 5 fois plus gros que celui du chimpanzé. Alors le chimpanzé est très intelligent, tout le monde est d'accord. La vache, il faut la regarder, à moins que ce soit des grandes poétesses, on n'a pas l'impression vraiment que ce soit des animaux. Donc la règle, c'est exactement ce que vous avez dit, il n'y a aucun rapport entre le poids du cerveau et l'intelligence. Et c'est important à savoir, par exemple, pour les patients, parce que bien souvent, l'imagerie cérébrale, on parle d'atrophie du cerveau, notamment chez les sujets âgés. On peut très bien avoir un cerveau qui est atrophié jusqu'à un certain point, bien entendu, et avoir une intelligence et une mémoire tout à fait normale. Donc il n'y a pas de rapport. La question qui se pose ensuite, c'est bon, si le poids du cerveau ne compte pas, est-ce que c'est le nombre de cellules, notamment le nombre de neurones? La réponse est la même. Il n'y a pas de corrélation entre le nombre de neurones dans le cerveau et l'intelligence.
Enfin, l'intelligence mesurée par quoi? Le fameux QI?
Le quotient intellectuel, par exemple, ou divers tests de ce genre, mais aussi le bon sens. Par exemple, songez que le cerveau d'une baleine, ça pèse 8 kilos. Bon, il y a pas mal de neurones, ils sont beaucoup plus espacés que chez l'homme. Le cerveau d'un éléphant, c'est 4 kilos. Bon, les éléphants ont de la mémoire, on sait, c'est des êtres d'ailleurs qui ont de la conscience, au sens où on en parlera peut-être, mais leur intelligence n'est pas, à l'évidence, celle d'un homme. Donc, ce qui est peut-être le plus important, c'est la qualité des neurones, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une arborisation plus ou moins grande. Il faut savoir qu'un neurone, une cellule nerveuse appelée neurone, avec son prolongement qu'on appelle un axone, a chez l'homme environ 10 à 50 000 connexions avec les voisines. 10 à 50 000. Et les travaux, sans aller dans les détails les plus récents, laisse entendre que plus on a de ces connexions, plus on a de l'intelligence. Voilà. C'est plus les connexions nerveuses. C'est assez logique, d'ailleurs. C'est-à-dire que l'intelligence, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'effectuer des liens entre les choses, entre les idées, entre les concepts, d'anticiper. Et on peut comprendre que le fait qu'il y ait beaucoup plus de connexions finit par jouer un rôle dans les capacités d'intelligence.
Donc c'est vraiment une histoire fonctionnelle, la fonctionnalité de la connexion, la rapidité ou la diversification.
Ouais, moi je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On ne peut pas, je ne vois pas, à titre personnel, une opinion personnelle, mais... comment les neurones à eux seuls peuvent penser. Pour moi les neurones c'est des routes dans le cerveau où nos perceptions qui arrivent dans le cerveau sont véhiculées de manière complexe, dans des autoroutes, des grosses voies neuronales, des routes nationales, des routes secondaires, des mini-routes, etc., lançant, formant un circuit extrêmement complexe, un peu comme les rues de Paris, d'ailleurs. Mais on ne peut pas dire que les rues de Paris pensent. Ce qui pense dans les rues de Paris, c'est ce qui se passe dans les maisons. Or, pour moi, les maisons, c'est les cellules gliales, c'est-à-dire toutes les cellules qui sont autour. Autrement dit, si on doit réfléchir à la genèse de la pensée chez l'homme, à la genèse d'intelligence, donc de la pensée, il faut certainement penser à l'ensemble et pas seulement aux neurones. Il faut donc penser à un couple entre les cellules gliales, les astrocytes notamment, et les neurones.
D'ailleurs, vous allez parler dans votre livre « L'homme subconscient » de cette couple à trois, là, entre
Le ménage à trois.
Le ménage à trois, voilà, entre les neurones, le substrat glial et les vaisseaux qui ont besoin d'alimenter tout ça.
On peut comprendre comment ça se passe, c'est-à-dire qu'il faut bien que les neurones vivent, donc les vaisseaux apportent de l'oxygène, apportent du glucose, apportent de la nourriture, et le donne aux neurones, mais l'intermédiaire obligé entre le sang qui arrive dans le cerveau et les neurones et les routes dans le cerveau, ce sont ces cellules gliales, qui est l'intermédiaire. Donc c'est véritablement un couple. D'ailleurs, de même que les vaisseaux apportent de la nourriture, ils permettent d'éliminer les déchets. Et tout ceci se passe à travers les astrocytes. Donc je pense que les travaux futurs, pour mieux comprendre comment un cerveau, entre guillemets, matériel, bon, il est même matériel tout court, et une pensée dont on peut penser qu'elle est immatérielle, elle est incolore, elle est inodore, elle n'a pas de goût, la seule chose c'est qu'on peut l'entendre quand je parle, mais on ne sait pas ce que c'est que la pensée. Et disons qu'elle est entre guillemets immatérielle, qu'elle soit immatérielle, eh bien c'est les astrocytes et c'est le couple entre les neurones, les astrocytes et les vaisseaux qui, donc c'est pour ça qu'on parle d'un ménage à trois.
Alors votre ciblage de réflexion sur le rôle des astrocytes donc renforce un petit peu ce que vous avez dit sur les informations du cerveau d'Einstein, donc il y aurait, et quand on ne peut pas généraliser, mais je veux dire, ça peut-être ça sous-tend un peu le fait qu'il y a une quantité, en tout cas, d'astrocytes peut-être plus importante.
C'est une hypothèse.
Alors, ça a été... cette analyse du cerveau d'Einstein est assez incroyable, hein, comme j'ai dit, après 40 ans de mise à l'écart. Oui. Ensuite, il y a un certain nombre... Au décès de Thomas Harvey, qui était le jeune... anatomopathologiste de l'époque, donc il va y avoir un legs de photos qui n'étaient pas connues, que la famille avait, et qui vont être données, donc tout un tas de publications, y compris dans le Lancet, sur justement essayer de comprendre, bon, il n'y a rien de transcendant, on va dire, hein, qui apparaît, en tous les cas de visible qui apparaît, sauf ce que vous avez évoqué, et peut-être une augmentation des lobes pariétaux. Quoi qu'il en soit, le cerveau bouge, il évolue. Et d'ailleurs, l'évolution d'Einstein est assez étonnante, hein, parce que quand il est enfant, ses résultats scolaires sont pas terribles. Il échoue à Polytechnique, hein, la première fois. La deuxième fois, il passe de justesse. Donc, ça corrobore peut-être le fait que les choses se développent. Les communications, les interactions et tout ça se développent. Il ne faut pas perdre espoir, quoi.
J'en garde toujours un peu.
Alors, comment se fait-il que chez l'homme, on a une augmentation du volume quand même de la boîte crânienne au fil du temps, puisqu'on passe de 400 cm3 chez l'Australopithèque, il y a 5 millions d'années, à l'homme de Néandertal qui fait 1600, c'est-à-dire
plus que l'Homo sapiens.
Voilà, nous on a régressé.
Ce qui est d'ailleurs une preuve pour montrer que le poids n'est pas corrélé avec l'intelligence.
Mais c'est peut-être l'organisation spatiale qui peut être en cause, je ne sais pas. En tous les cas, vous dites que le cerveau est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre que vous avez examiné des visu, mais aussi qu'on a pu examiner ces derniers temps. Avec l'imagerie, fantastique progrès de l'imagerie, qui permet l'imagerie la fonctionnelle également, qui permet de voir. Alors, est-ce qu'on n'en fait pas trop sur cette imagerie?
L'imagerie, c'est quand même très grossier.
Parce que dès qu'on pense, ça peut s'allumer quelque part.
Ben oui, bon, l'imagerie cérébrale, avec l'IRM notamment, est un progrès absolument prodigieux dans la pratique médicale pour déceler des maladies, suivre les thérapeutiques, etc. Mais on peut mesurer des volumes, c'est-à-dire, par exemple, s'il y a une tumeur cérébrale, on va la voir tout de suite. Mais ce qui est intéressant, pour répondre plus précisément à votre question, c'est qu'en effet, lorsqu'on a une pensée donnée, par exemple, ou lorsqu'on fait un geste donné, ou lorsque j'ai une perception donnée, par exemple, si je lève le pouce, je me fais une IRM dite, entre guillemets, fonctionnelle, on va voir la région du cerveau, du cortex cérébral, la couche superficielle du cerveau, dans un endroit très précis qui correspond au pouce, qui va s'activer, qui va s'allumer. Et donc, de cette manière, on peut effectuer des corrélations entre n'importe quel comportement d'un individu dans des conditions normales ou pathologiques et, disons, une activation cérébrale donnée. On confirme ainsi ce qui était d'ailleurs à peu près connu, mais on fait aussi des découvertes tout à fait étonnantes, notamment dans le domaine des fonctions les plus élevées du cerveau, je veux dire la mémoire, le langage, la lecture, la stratégie intellectuelle, la conscience.
Est-ce que le cerveau, il y a une plasticité du cerveau ?
Oui, ah ben évidemment, oui. Il y a une plasticité du cerveau, ça veut dire quoi ? Souvent ce mot est employé, il est très difficile, en fait on devrait trouver une autre dénomination. Plasticité du cerveau, ça veut dire que les neurones ne sont pas fixes comme dans un ordinateur, où ça bouge pas. Autrement dit, les cellules nerveuses, au cours du développement, vous l'avez dit, quand on est un nouveau-né, un cerveau qui est égal à peu près au cinquième du poids du cerveau à l'âge adulte, entre un quart et un cinquième. Le nombre des cellules va se multiplier pendant très longtemps, pendant plusieurs années. Mais surtout, chaque neurone qui a des prolongements qui permettent des connexions avec les autres neurones, eh bien ces connexions vont se développer, vont éventuellement parcourir des distances assez importantes pour créer l'ensemble des connexions qui, à l'âge adulte, nous permettront d'exister et de penser comme on veut.
Mais on disait plutôt que le nombre de neurones est fixe et ne bouge pas.
À l'âge adulte, ça c'est une autre donnée, c'est-à-dire que contrairement à toutes les cellules du corps, de la peau, par exemple, si vous vous coupez, bon, il y a des cellules qui disparaissent, mais ça se reconstitue. Les cellules peuvent se reproduire, on dit, à peu près 40-45 fois. Tandis que dans le cerveau, vos neurones, quand vous aviez 20 ans, ils étaient là, et quand vous serez centenaire, ils seront toujours là. C'est ça, au cours de la prise d'âge normale, ce qui n'est pas le cas justement d'une maladie dégénérative comme la maladie d'Alzheimer, le nombre des neurones reste fixe. En revanche, les connexions, les terminaisons et les connexions de chacun des neurones avec ses voisines diminuent. Mais je reviens à votre idée de la plasticité. On a donc des réarrangements des neurones au cours du développement, entre un nouveau-né et un adulte, mais on en a aussi au cours de l'apprentissage. Si vous apprenez à jouer au tennis, si vous apprenez à faire de la bicyclette, si vous apprenez un texte, si vous apprenez, vous enrichissez votre cerveau par de la connaissance, que nous faisons tout le temps en faisant des études et encore à nos âges, à apprendre toujours des choses nouvelles, eh bien, les connexions nerveuses se réarrangent dans le cerveau de façon à permettre de garder les souvenirs en place. Comment ça se fait ? Eh bien, les connexions nerveuses se développent, changent, et une fois qu'elles sont en place, elles se cristallisent en quelque sorte, elles restent là. Et à ce moment-là, le souvenir est sanctuarisé. Donc, cette plasticité neuronale est absolument capitale. Et pour nous autres médecins, évidemment, c'est une chose absolument essentielle, parce qu'on peut se dire que, avec le vieillissement, on va perdre ses connexions nerveuses. Donc, un des objectifs, notamment dans les maladies neurodégénératives, c'est de renforcer ses capacités de développer des connexions, de renforcer cette plasticité neuronale avec des moyens médicamenteux. On en connaît quand même pas mal. Le problème, c'est un autre sujet, c'est que l'application à l'homme, est en progrès, est en cours, mais il n'y a pas encore de facteurs qui permettent réellement d'assurer de nouvelles connexions jusqu'à améliorer, par exemple, la mémoire chez quelqu'un de très âgé ou quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer. Pas encore. Mais ça viendra.
Donc on peut être âgé et ne pas vieillir si on entretient ces connexions et
oui, elles peuvent se maintenir. Oui, je pense que c'est très important de faire ça. Vous savez qu'il y a des centenaires qui ont une très bonne mémoire et qui sont tout ridés, dont la peau est toute ridée, et il y a des gens qui sont centenaires, qui ont une très jolie peau et qui ont perdu la mémoire. Le vieillissement est différentiel. Et dans le cerveau, comme c'est tellement compliqué le cerveau par rapport au reste du corps, il y a des vieillissements qui s'effectuent à des vitesses différentes. Donc il y a des gens qui peuvent garder des capacités très importantes pour réfléchir, mais qui auront un petit peu perdu la mémoire, etc. etc.
J'aimerais qu'on aborde avec vous, Yves Agide, une partie du cerveau qui est la plus difficile à comprendre, puisque la moins visible. Tout le monde connaît les circonvolutions. D'ailleurs, on a dit tout à l'heure que le poids n'était pas en rapport avec l'intelligence. Le nombre de circonvolutions également n'est pas...
Mais ce qui compte, c'est pas les circonvolutions. Les circonvolutions, ce sont les bosses qu'on a autour du cerveau, qui avaient, disons, surtout au début du 19e siècle, prêté à des nombreuses discussions. C'est la bosse des maths.
Voilà.
C'est toute cette époque où on cherchait sur le cerveau à détecter, d'après la forme de ces circonvolutions, à savoir si les gens étaient intelligents, s'ils avaient des propensions à devenir des assassins, etc. Tout ça n'a pas de sens, parce que ce qui compte, c'est la quantité de cellules et de neurones, donc, et surtout les quantités de connexions, comme on le disait. Alors, les régions les plus riches, par exemple, dans le cortex cérébral, cette couche de cellules nerveuses qui se trouve à la périphérie du cerveau, il y en a à peu près 20 à 25 milliards dans le cortex cérébral. Alors que dans les structures que vous évoquez, qu'on appelle les noyaux gris centraux, ça représente 1/50 du poids du cerveau. Là, il y a beaucoup moins de cellules. Mais leur rôle n'en est pas moins très important, si vous voulez.
Ce que je veux, c'est que vous nous expliquiez, parce que vous l'expliquez très bien dans votre livre L'homme subconscient, cet effet de filtration qui va faire ce passage obligé. Mais peut-être pouvez-vous dire à nos auditeurs, Yves Agide, qu'est-ce que c'est que les noyaux gris centraux ? De quoi parle-t-on ?
C'est en gros ce que les gens appellent souvent le cerveau reptilien. C'est-à-dire ce sont les structures les plus anciennes du cerveau, qui existent de manière majoritaire chez les animaux, même les plus primitifs.
C'est-à-dire qu'on le retrouve chez les oiseaux, par exemple.
On le trouve notamment chez les oiseaux qui ont d'énormes noyaux gris centraux, alors qu'ils ont un tout petit cortex cérébral. Pourtant, ils sont très intelligents, on pourra en parler. Qu'on retrouve, en fait, c'est des structures qui sont apparues bien avant la formation du cortex cérébral, qui sont apparues à l'ère des poissons, c'est-à-dire il y a à peu près 800 millions d'années. Et ces structures, pour résumer, sont responsables de tous nos comportements automatiques. Tous les animaux à partir des poissons ont peut-être pas toujours de la conscience, on pourra en parler, ça c'est plus vers les primates et vers l'Homo sapiens que ça prend de l'importance, mais tous ont ces petits noyaux gris centraux et qui sont responsables de tous nos comportements automatiques, notamment de tous les apprentissages. Par conséquent, c'est ce qui, à mon avis, est l'essentiel. Ces noyaux gris centraux responsables des comportements automatiques, ces comportements automatiques sont permanents chez tout le monde, chez vous par exemple, dans la posture que vous avez, dans les pensées parfois élémentaires que nous avons, dans les perceptions, dans la façon de percevoir.
La conduite.
La conduite automobile, c'est absolument évident. C'est ce que je raconte tout le temps. Je peux donner l'exemple. C'est-à-dire, si vous, nous sommes tous les deux place de la Concorde, que vous conduisez, je suis à côté de vous, vous allez me parler merveilleusement de votre émission, etc. Et vous passez au milieu des voitures qui sont dans tous les sens, des feux rouges, des touristes qui traversent de manière indûmente, des scooters, etc. Et pourtant, on continue tranquillement notre conversation. C'est un comportement qui est automatique, auquel vous ne réfléchissez pas, mais il est là, il est utile. Et ces comportements sont permanents, tout le temps. Ils sont observés chez tous les animaux à partir des poissons. Et pour moi, en tant que médecin ou neuropsychologue, c'est l'essentiel, c'est que c'est le meilleur reflet de la personnalité. C'est pour ça que, en regardant les gens dans leur comportement automatique, leur façon de marcher, leur façon de manger, leur façon de parler, etc., ça renseigne énormément sur la personnalité des gens, leur façon de penser et leur façon de s'émouvoir.
Alors, Yves Agide, ces noyaux ont des noms un peu particuliers. pour le corps des mortels. Ils sont jetés. On pourrait dire des poèmes, le striatum, le pallidum, la substantia nigra,
la substance noire.
Et ces noyaux sont donc délimités, à la coupe, on les voit bien?
On les voit très bien. Ce sont des amas de cellules nerveuses. Il faut comprendre, dans le cerveau, vous avez des neurones qui sont généralement concentrés dans des amas cellulaires. C'est ce qu'on va appeler la substance grise, parce que quand on coupe un cerveau, ça a un petit reflet grisâtre, rosé grisâtre. Et ces amas de cellules nerveuses, la substance grise, sont distincts de ce qu'on avait appelé la substance blanche, qui correspond aux régions dans lesquelles les neurones envoient leurs longs prolongements. Pourquoi c'est blanc? C'est parce que les prolongements des neurones, qu'on appelle les axones, sont entourés d'une gaine graisseuse, qu'on va appeler la myéline, et cette gaine est blanchâtre, parce qu'elle est très graisseuse, et donc on distingue dans le cerveau de la substance grise et de la substance blanche. La substance grise, c'est là où il y a les cellules, les corps cellulaires, la substance blanche, c'est là où il y a les prolongements.
Donc, ces fameux noyaux gris centraux dont vous donnez l'éclairage sont source de tout un tas de troubles du comportement.
Oui.
Lorsqu'ils ne fonctionnent pas bien. On va dire que normalement, c'est donc, vous l'avez insisté, sur la convergence des informations qui viennent, cet aller-retour entre le cortex et les noyaux gris centraux, qui sont un peu le filtre, quoi, je dirais, où passe l'information, oui. Ce qui est retenu, ce qui n'est pas retenu, ce qui est coordonné, ce qui n'est pas coordonné.
Si vous permettez, c'est important à comprendre. C'est-à-dire que les comportements automatiques, c'est ce que j'appelle la subconscience, sont gérés par ces petites structures, 1/50 du poids du cerveau chez l'homme, au milieu, tout à fait au milieu du cerveau. Mais le cortex cérébral, qui est la substance noble du cerveau, nous permet d'avoir des activités non automatiques, des comportements non automatiques. C'est simplement le fait, par exemple, de décider une stratégie intellectuelle ou d'enchaîner une série de gestes. C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait automatique. Et il y a un dialogue permanent entre le cortex cérébral responsable de nos pensées et de nos perceptions et de nos raisonnements non automatiques et les noyaux gris centraux qui sont responsables des comportements automatiques. De temps en temps, si vous voulez, le cortex cérébral se désengage et nous sommes en routine, nous sommes en comportement automatique. Et puis tout d'un coup, on va se dire, on va avoir une pensée sur une pensée, on va avoir une pensée qui n'est pas complètement automatique, et à ce moment-là, c'est le cortex cérébral qui reprend le dessus. Les noyaux gris centraux sont quand même soumis, en effet, aux noyaux gris centraux, avec un aller-retour permanent entre les comportements automatiques et les comportements non automatiques, le cortex cérébral et les noyaux gris centraux.
Alors, il y a eu des études étonnantes qui semblent montrer ou voulaient montrer que les noyaux gris centraux, c'est là que siège le sentiment amoureux.
Ouais.
Oui. Enfin, on rigole, mais je veux dire, oui.
Ben, c'est les pigeons, je trouvais ça très étonnant parce que je le dis souvent, c'est-à-dire que lorsque tout le monde est tombé amoureux, on se dit pas quand on tombe amoureux, tiens, je vais devenir amoureux. Si je suis un homme, par exemple, cette femme elle est jolie, elle a de beaux yeux, elle parle si joliment, j'ai décidé de tomber amoureux d'elle. Quand on tombe amoureux, c'est comme ça. C'est un comportement qui ne demande pas des réflexions. C'est un comportement qui est automatique. C'est d'une seule façon. Et dans cette étude que j'adore, en IRM fonctionnel, on peut montrer de manière assez claire que les structures qui s'allument chez des gens qui sont très amoureux entre eux, c'est pas tellement les structures les plus nobles, le cortex cérébral, ce sont ces petits noyaux gris centraux. Voilà. Et en ce sens, nous sommes comme les oiseaux. Par exemple, des pigeons qui s'aiment d'amour tendre. C'est tellement joli de voir. C'est sur les toits de Paris. Ils s'aiment. Et ils n'ont pratiquement pas de cortex. Ils ont pratiquement que des noyaux gris centraux. Et nous ne sommes en fait que des gros pigeons en ce qui concerne l'amour, quoi, au fond.
Donc, il faut protéger les noyaux gris centraux.
Oui.
Et parce qu'effectivement, il y a des troubles qui sont inquiétants pour la personne et pour le médecin. On va parler de l'histoire de la marquise de Dampierre. Célèbre par ces troubles du comportement que vous allez nous expliquer, Yves-Agile.
La marquise de Dampierre était la fille de la grande noblesse napoléonienne. Elle est à la cour de Napoléon. Et malheureusement, à la cour de Napoléon, elle était très jolie, paraît-il, elle disait toujours « mère des foutus cochons ». Effectivement, c'était absolument inconcevable. Et en plus, elle était agitée de comportements moteurs tout à fait bizarres, ce qu'on va appeler des tics. C'est une tiqueuse. Mais c'est une tiqueuse dramatique, et tellement dramatique que son comportement était inacceptable à la cour de Napoléon, et par conséquent, elle était enfermée. Elle a été enfermée pendant plusieurs décades, jusqu'à ce que, à la fin du XIXe siècle, c'était donc une dame très âgée, qui continuait à avoir des tics et ses comportements absurdes, et Jean-Martin Charcot, notre illustre prédécesseur, première chaire de neurologie dans le monde, avait un élève qui s'appelait Gilles Latourette. Et Gilles Latourette a décrit 7 cas de la maladie qui porte son nom, avec Jean-Martin Charcot. Et cette maladie, c'est simplement des tics, des gens qui ont des tics. Qu'est-ce que c'est des tics? Ce sont des espèces de mouvements extrêmement brefs, brusques, inattendus, qui sont absurdes. Tout le monde sait ce que c'est des tics, mais qui prennent dans la maladie dite de Gilles Latourette des proportions absolument dramatique et qui s'accompagne en plus non seulement de tics moteurs mais de tics verbaux et notamment de ce qu'on va appeler de coprolalie, c'est-à-dire de dire des insanités. Donc c'est absolument catastrophique et
surtout que ça vient, c'est irrépressible.
C'est irrépressible jusqu'à un certain point. Ouais. Les gens peuvent se retenir un moment.
Mais après,
comme
ça
disait une de mes malades, d'ailleurs, après je fais des rattrapettes. C'est-à-dire qu'elle se contenait en public pendant au moins une minute. Et puis il fallait qu'elle sorte rapidement, qu'elle aille dans une chambre. Et là, elle commençait à hurler, à avoir tous ses tics. Et puis elle revenait, etc. C'était ses rattrapettes. Mais ce qui est merveilleux, vous voyez, c'est qu'en comprenant, enfin merveilleux pour moi, c'est qu'en comprenant mieux la physiologie du cerveau, ce qui était fait évidemment de manière tout à fait exceptionnelle à la Salpêtrière, on est arrivé à comprendre la genèse, le pourquoi de ces tics, et à trouver une thérapeutique neurochirurgicale. Je ne parle pas des tics, des gens qui ont des petits tics comme on en voit souvent. Je parle vraiment de tics tout à fait dramatiques, la vraie maladie de Gilles Latourette, qu'on peut quasiment guérir, enfin on peut guérir les symptômes, en plaçant des électrodes dans une partie très particulière du cerveau, notamment dans ces noyaux gris centraux.
Voilà, c'est pour ça qu'on parle de ces noyaux gris et de ces premières interventions qui vont donc consister à faire des effets de stimulation d'une partie des noyaux gris, parce que, vous l'avez dit, il peut y avoir dans le dysfonctionnement des tremblements, des dystonies, ce qu'on appelle l'hémibalisme, ouais. Je dirais, peut-être pour nos auditeurs. Ben,
c'est-à-dire que dans chaque, comme les noyaux gris centraux sont constitués de plusieurs petites parties, chaque partie, lorsqu'elle est dysfonctionnante, lorsqu'elle ne marche pas, pour des raisons diverses, va donner un tableau clinique un peu particulier. Parkinson, dystonie, hémibalisme, Corée ou danse, voilà, avec des lieux très particuliers pour provoquer ces anomalies.
France Culture, Révolution médicale, René Friedman.
Thank you.
Jean-Sébastien Bach, la réaction de Goldberg, je dirais pour reprendre avec vous, professeur Ivagine, votre expérience sur les maladies neurologiques et particulièrement sur cette approche du rôle important des noyaux gris centraux qui ont été peut-être pas suffisamment explorés, sur lesquels vous avez montré donc le rôle dans la coordination, dans l'écrémage, je dirais, de toutes les informations qui sont transmises entre le cortex et ses organes. Et puis, cette étude assez extraordinaire de David Carlson, qui a eu le prix Nobel en 2005, et qui montre qu'il y a un défaut d'un acide aminé, de la dopamine, qui montre qu'on peut avoir une rigidité, une lenteur des mouvements qui s'installent, et qu'on peut traiter correctement si on donne ce qui manque, c'est-à-dire la L-dopamine. Mais par contre, ça ne marche pas toujours, et il peut y avoir des troubles moteurs, et c'est là, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on peut intervenir, on commence à intervenir, depuis les travaux de Ben Abid en particulier, sur la stimulation de certaines zones de ces noyaux gris centraux pour pouvoir améliorer les problèmes de tremblement ou de troubles du comportement moteur des maladies de Parkinson.
Oui, alors ce type de d'intervention chirurgicale, de neurochirurgie, il faut comprendre de quoi il s'agit. On introduit des électrodes très très fines dans la tout à fait jusqu'au centre du cerveau, et ces électrodes sont reliées par un fil électrique qui passe sous la peau et qui rejoint un pacemaker comme un pacemaker cardiaque qu'on met sous la clavicule. Et donc on entraîne une stimulation électrique très permanente qui permet de modifier certains circuits cérébraux. Les premiers résultats très satisfaisants obtenus par l'équipe de Grenoble, indiscutablement, c'était dans la maladie de Parkinson. Et on s'est aperçu que dans un petit nombre de cas, malheureusement, seulement 5% des cas, lorsqu'il y a un déficit très spécifique et sélectif en dopamine dans le cerveau de certains malades, notamment de sujets jeunes, on peut rétablir le fonctionnement normal des noyaux gris centraux en passant en quelque sorte au-delà du déficit. Dans la maladie de Parkinson, il y a une dégénérescence d'un petit autoroute au milieu du cerveau qui comprend un cent millième des neurones du cerveau. C'est un tout petit, c'est comme un interrupteur, c'est ce que j'appelle l'interrupteur des comportements, notamment moteurs, et qui fait que lorsque la dopamine disparaît par dégénérescence des neurones qui produisent ce neurotransmetteur, la connexion ne s'établit plus. Et les signes parkinsoniens apparaissent, c'est-à-dire essentiellement de la lenteur, une grande lenteur, une rigidité, etc., parfois un tremblement de repos, pas toujours. Et on peut donc traiter cette maladie en remplaçant, en donnant un traitement substitutif, en remplaçant la dopamine qui manque, avec des résultats tout de même satisfaisants jusqu'à un certain point. Mais dans ces 5% de cas, on peut passer au-delà de la déficience dopaminergique en rétablissant le courant un peu en aval. C'est un peu comme si vous avez un barrage sur l'autoroute. Évidemment, il y a le blocage complet, ça ne passe pas. Mais on peut, si on prenait les voitures, on peut les replacer après le barrage. On agit après le barrage. Et cette petite stimulation, dans une structure qu'on appelle le noyau subthalamique, entraîne alors à ce moment-là la disparition quasi complète, dans ces quelques cas, des symptômes parkinsoniens. Les résultats étant si spectaculaires, nous nous sommes intéressés à, connaissant bien la physiologie de ces noyaux gris centraux, à essayer cette technique dans d'autres situations, notamment dans des cas de psychiatrie tout à fait extraordinaires. On a dit un mot de la maladie de Gilles Latourette, mais par exemple, des résultats extrêmement encourageants ont été obtenus dans des cas tout à fait dramatiques, de gens qui ont envie de se tuer, c'est ça que je veux dire, résistant à toute thérapeutique médicale pendant des années, etc.
Une dépression gravissime.
Non, c'est pas la dépression, c'est les TOC. Dans la dépression, c'est plus compliqué parce que les dépressions, n'est-ce pas, ça varie, c'est pas stable. Donc, faire de la, entre guillemets, psychochirurgie, c'est une forme de psychochirurgie, mais qui est réversible. C'est ça la différence avec la psychochirurgie du temps passé. La lobotomie, c'est fini quand même. Mais là, l'électrode, on peut toujours la retirer. Et puis, ça ne détruit pas le tissu nerveux. Et donc, dans certains troubles obsessionnels compulsifs, très très sévères, de gens qui ont des rituels toute la journée, en un mot, un trouble, un TOC, ce qu'on appelle un TOC, c'est des gens qui ont des obsessions, par exemple, d'obsession de la propreté, de la symétrie, de la vérification, et qui ont des compulsions, c'est-à-dire qui essaient de compenser leurs obsessions. Par exemple, quand on a l'obsession de la propreté en se lavant les mains tout le temps, tout le temps. Parfois, j'ai eu un malade qui se lavait les mains jusqu'au sang, alors, et qui savait très bien que c'est idiot, c'est épouvantable, n'est-ce pas? Eh bien, dans des cas aussi dramatiques qui se traduisent par ces rituels catastrophiques pendant des heures, pratiquement toute la journée, dans certains cas, sans entrer dans les détails, la stimulation des structures cérébrales profondes de ces noyaux gris centraux, précisément, peut entraîner des améliorations éventuellement spectaculaires. Donc ça, c'est quand même un très très grand progrès. Mais il ne faudrait pas croire que croire aux auditeurs que dès qu'on a un TOC, on va les opérer.
C'est des cas vous avez insisté, j'imagine déjà que même dans la maladie de Parkinson, c'est pas toutes les patientes qui peuvent en bénéficier. Ouais. Et dans les autres approches qui traiteraient donc les TOC ou d'autres situations psychiatriques, je dirais, on avance sur la pointe des pieds.
Oui.
La pointe,
Parce que ça pose des problèmes éthiques. D'ailleurs, je précise que tout ceci se fait avec l'avis des comités d'éthique, bien entendu.
Vous êtes membre du comité national d'éthique, donc vous êtes particulièrement bien passé en plus.
On en est quand même dans le domaine de la psychiatrie et de la neurochirurgie à une étape qui est quand même encore celle de la recherche.
Bien entendu. Et la recherche, d'ailleurs, l'abord comme ça du cerveau, donc me fait revenir au thème général Einstein et Frankenstein. Donc ce roman de Mary Shelley assez extraordinaire puisqu'on va fêter donc le 200e anniversaire l'année prochaine avec tout un tas de représentations opéra, musique, création théâtrale. Ce que je trouve assez extraordinaire, c'est aussi la découverte de l'électricité à ce moment-là, l'électricité produite par les cellules, produite et par le cerveau. Et si on se rappelle l'image de Frankenstein du film, il y a une espèce de grande chose électrique qui va donner la vie. C'est l'élan vital et c'est l'électricité qui donne la vie, le réveil du cerveau qui s'est greffé sur un assemblage de plusieurs éléments. À ce propos, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce soi-disant neurologue Sergio Carnavero qui veut faire une greffe de tête?
Je ne connais pas ce monsieur, mais la greffe de tête, on peut toujours la faire, mais c'est à mon avis impossible. On peut expliquer pourquoi. Dans le coup, il faut couper la tête. Il y a tellement de choses qui passent. Et en particulier, ce qui unit le cerveau qui pense, automatiquement ou non automatiquement, jusqu'aux exécutants, c'est-à-dire les gestes, les nerfs qui vont nous permettre de marcher, d'attraper des objets, de parler. Les gens ne comprennent pas. Juste pour cet exemple-là, une moelle qui est sectionnée, vous avez des millions de fils très fins, très fins, très fins qui sont coupés. Il est impossible de les recontacter un à un. Donc, je pense que c'est impossible. Ceci étant, en théorie, on peut toujours y penser. C'est-à-dire que si, la personnalité de quelqu'un est dans le cerveau, ce qui est le cas, si, de manière complètement théorique, on greffait une tête sur quelqu'un d'autre, eh bien, il est évident que le quelqu'un d'autre aurait la personnalité du greffé.
Oui, il y a eu quelques essais chez Animal. Robert White, en 70, a greffé une tête de macaque qui a tenu 8 jours.
Ah oui.
Et puis, des Chinois ont fait des greffes de tête de souris. Hein. Donc, tout ça pour dire qu'on voit de tout et on découvre de tout.
Oui, c'est quand même, il faut faire, je trouve que, moi, ça me touche beaucoup, ce genre de choses. Parce que, autant, quand on parle d'une prostate, qu'on la coupe ou qu'on la greffe, c'est pas très, très grave. Bon. Mais quand même, à partir du moment où on joue avec le cerveau, donc avec la personnalité de quelqu'un, je pense qu'il faut pas faire n'importe quoi. Et je pense que toute recherche sur le cerveau doit être suivie de très très près sur le plan éthique.
Donc, revenons à nos noyaux gris centraux. Quelle recherche vous faites actuellement sur les noyaux gris centraux?
Oh, moi, maintenant, vous savez, je suis la statue du commandeur dans Don Juan. Je ne fais plus directement, mais dans notre institut de recherche à l'ICM, il y a 650 chercheurs qui travaillent beaucoup et exclusivement sur ces sujets-là. Les sujets qui sont parmi les plus intéressants pour l'avenir, c'est 1. d'essayer de limiter l'évolution et éventuellement de stopper l'évolution d'un certain nombre de maladies, notamment les maladies dégénératives du cerveau comme l'Alzheimer, Parkinson, sclérose latérale amyotrophique. Donc des recherches, cette fois-ci moléculaires et cellulaires, sont faites pour essayer d'enrayer le processus pathologique, hein, qui est déclenchant. Mais l'autre chose, c'est aussi, l'autre aspect, c'est à l'autre extrémité, c'est plus de la physiologie et plus de la psychologie, c'est d'essayer de comprendre la genèse de la pensée. D'abord, qu'est-ce que c'est que la pensée? Et des grandes fonctions mentales, notamment la mémoire. Parce que si on comprend comment le cerveau produit de la mémoire, produit du langage, produit de la conscience, eh bien, lorsque ces grandes fonctions mentales seront altérées, par exemple la mémoire dans une maladie d'Alzheimer, eh bien, on pourra à ce moment-là comprendre comment le corriger. Donc, ce sont les deux grandes approches et qui sont, je peux le dire, en pleine expansion. On fait des progrès en une année comme on en faisait pendant 10 ans, il y a 10 ans.
Justement, dans le domaine de la recherche, donc il y a cet institut avec 650 chercheurs, et nous avons d'ailleurs reçu ici dans cette émission un certain nombre de vos collaborateurs, que ce soit sur le sommeil ou sur d'autres approches. Il y a des centres, des projets comme l'Human Brain Project qui essayent d'avoir une approche pluridisciplinaire sur tous ces phénomènes-là, mais avant qu'on aborde ce problème de recherche, j'aimerais connaître votre position par rapport à l'inconscient, l'analyse, qui est donc une autre forme d'approche de la pensée, puisque je crois que vous n'êtes pas opposé à cette approche commune dans certains cas.
Non, moi je suis effectivement très touché par tout cela, parce que toute ma vie, j'ai essayé de me battre pour rapprocher la neurologie et la psychiatrie. La neurologie, c'est des maladies du cerveau qu'on voit quand on coupe le cerveau. Des tumeurs, des boules, des séquelles d'infarctus, etc. Dans le domaine de la psychiatrie, c'est un peu la même chose. Il y a eu malheureusement deux courants qui se sont développés après la guerre. Un courant de psychiatrie classique qui était très limité, c'était très lourd, c'était les asiles, avec un système de prise en charge des malades qui n'était pas évidemment idéal, il ne l'est toujours pas d'ailleurs, mais c'était vraiment catastrophique, et un mouvement d'antipsychiatrie à l'époque, évidemment sous-tendu essentiellement par les approches psychodynamiques, disons la psychanalyse en général, et là je dirais deux choses. Premièrement, j'envoie des malades à des psychanalystes parce que la prise en charge est éventuellement excellente. À partir du moment où les malades psychiatriques sont bien pris en charge, tout est bon. Maintenant, il y a un deuxième aspect, c'est que la psychanalyse, je pense, est un système qui a permis d'attirer l'attention sur les aspects inconscients de nos comportements. C'est fondamental, c'était pas les seuls d'ailleurs. Et de manière très intelligente, avec un génie qui était Sigmund Freud, et un mouvement sociologique et un mouvement médical qui s'est développé après, pour lequel je suis personnellement assez critique. Mais bon, je suis critique pourquoi ? Parce que c'est une approche qui n'est pas, entre guillemets, scientifique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas prouvée. Ce sont des idées qui sont nées dans la tête d'une personne ou de quelques personnes et qui sont mises en application. Mais les idées, les concepts eux-mêmes, et leurs applications n'ont jamais reçu de preuves comme on cherche à le faire en médecine. Songez que pour sortir un médicament aujourd'hui qui ait une action dans le système nerveux, il faut 1 à 2 milliards et 10 à 15 ans d'efforts dans l'industrie. C'est très difficile d'assurer qu'une méthode est efficace. Alors, pour répondre à votre question, le rapport avec la subconscience dont on parlait tout à l'heure, les comportements automatiques, est évident, et en particulier dans des situations qui sont celles de l'intuition. Comment on devient intuitif? Comment se fait-il que on ait des oublis bénins? Je cherche un mot, je ne le trouve pas, et ce soir, en mangeant ma soupe, il va me revenir à l'esprit. Ça veut dire qu'il y a eu un traitement inconscient, entre guillemets, de l'information pendant l'après-midi.
Les pensées peuvent être refoulées et ressortir.
Alors, je crois que l'idée du refoulement est quelque chose qui a certainement un certain sens. Et la question que je pose dans ce bouquin, mais avec un peu de dérision souriante, si vous me permettez, c'est de dire, est-ce que l'inconscient cérébral est dans les noyaux gris centraux? La subconscience est gérée préférentiellement par ces petites structures au milieu du cerveau. L'inconscient freudien, c'est autre chose. Je préfère laisser parler mes amis psychanalystes.
Enfin, je renvoie donc au livre « L'homme subconscient » parce que vous abordez subconscience, préconscience, conscience. Vous posez vraiment la question, qu'est-ce qui fait que nous produisons de la pensée et de la pensée sur la pensée?
Oui. Hein,
puisque la conscience, c'est je pense sur la pensée que je produis.
Ben la conscience, il y a des faux frères. Hein, c'est quand on dit je perds conscience, ça veut dire je perds connaissance. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est autre chose. La conscience, telle que définie par la plupart des philosophes, c'est une manière de se rapporter à soi-même. Moi, c'est ce que j'appelle plutôt la préconscience, c'est-à-dire les comportements non automatiques. Pour moi, la conscience vraiment intéressante, c'est d'avoir une pensée sur ce qu'on fait, sur ce qu'on ressent ou sur ce qu'on pense, ou ce qu'on est même. Je pense que je fais, je pense que je ressens, je pense que je suis, je pense que j'existe. C'est d'avoir une pensée sur ce que j'ai. Par exemple, devant vous, je parle, là, j'essaie de me concentrer sur ce que je dis, effectivement, mais tout d'un coup, je peux me dire, tiens, qu'est-ce que je fais devant le professeur René Friedman? Voilà, ça, c'est une activité de penser sur une pensée. Et ça, c'est quand même l'activité la plus noble du cerveau, qui existe probablement chez très peu d'animaux, et qui me touche particulièrement, parce que chez l'homme, c'est quand même l'éthique. Il n'y aurait pas d'éthique, donc de morale, chez l'homme s'il n'y avait pas une conscience,
pensée sur les faits, une pensée sur
soi-même.
Est-ce que vous pensez que le siècle qui vient sera le siècle du cerveau, comme dit le responsable à Lausanne de Human Brain Project?
Il l'a toujours été, à mon avis. Seulement, les gens l'ignoraient. Mais la seule chose qui est vraiment, vraiment importante, à mon avis, c'est le cerveau. Alors, évidemment, si les exécutants ne marchent pas, si notre tube digestif ne fonctionne pas, ou si j'ai une paralysie parce que je me suis sectionné un nerf, c'est très embêtant. Mais la partie noble de notre être, c'est quand même le cerveau. Alors le projet Human Brain Project, je le connais bien parce que je fais partie, je crois encore, du petit conseil scientifique de ce projet européen qui a été subventionné à hauteur de presque 1 milliard d'euros. Hein, quand même.
Ben oui.
Et l'idée de ça, c'est de faire une reconstitution informatique du cerveau humain. C'est un cerveau-machine. Le problème, ça va être un cerveau-machine qui va bouger. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, ce que on fait l'ensemble des chercheurs d'Europe ensemble, géré par Lausanne, en effet, c'est de reconstituer un tout petit bout de cerveau. Je rappelle que dans 1 millimètre cube de cerveau, 1 millimètre cube, c'est-à-dire vous avez 1000 millimètres cubes dans un... vous avez 1 500 000 millimètres cubes dans le cerveau humain, à peu près. Vous avez 50 000 neurones et pratiquement 1 milliard de connexions nerveuses. Donc c'est d'une complexité extrême. Et de manière informatique, on peut déjà reconstituer ce petit millimètre cube. Donc l'idée, c'est de le refaire à l'ensemble. Alors, si vous voulez, ce que les gens doivent comprendre, c'est que une représentation informatique du cerveau, savoir comment ça va marcher, les routes, comment vont fonctionner toutes ces routes, c'est très important. C'est pas ça qui va résoudre le problème de la connaissance, de l'âme, de l'esprit, etc. Mais c'est quand même un progrès dans mon esprit qui est absolument nécessaire. Il n'est pas suffisant, simplement, c'est ça. Mais c'est quand même, pour une fois, je suis assez content que l'Europe fasse un investissement considérable, en plus en luttant contre l'anthropie, en essayant de faire travailler tous les gens ensemble. Donc je trouve que c'est assez bien.
Ilagid, nous voilà arrivés au terme de cette heure passée rapidement, trop rapidement. On en gardera la mémoire, incontestablement, mais elle mérite d'y revenir. Il faut dire que sur le cerveau, beaucoup de livres sont parus, y compris cette année. Les sortilèges du cerveau de Patrick Bersch, le cerveau funambule de Jean-Philippe Lachaud, du neurone aux neurosciences cognitives, qui était publié par la Maison des sciences de l'homme. Et puis, je pourrais en citer un certain nombre, un sujet en soi, les neurosciences, le Talmud et la subjectivité, par un de vos collaborateurs, Lionel Lacache, et bien sûr, en faisant référence d'une part à Catherine Vidal, qui essaye de voir s'il y a des différences hommes-femmes, outre le poids, hein, puisque le cerveau féminin sont un peu plus légers. Ça veut pas dire que
c'est proportionnel à la taille, c'est pour ça.
Ah bon, vous nous rassurez, et nos auditrices. Et Jean-Pierre Changeux, donc l'homme neuronal, qui a inauguré cette série de livres grand public, dont le vôtre, L'homme subconscient, Ivagid, Le cerveau et ses erreurs. Cette émission de René Friedman a été préparée avec la collaboration de Catherine Donnet, réalisée par les noyaux gris de Danny Journaud, avec Bernard Laniel à la prise de son.